Du mardi 8 avril au samedi 12 avril 2003, Moshi, préparation de l'ascension. Moshi est une ville tournée vers le volcan qui la domine. Tout fait référence au Kilimandjaro. Les noms des boutiques, les inscriptions sur les voitures, la bière locale, l'eau minérale, les bureaux de guide, toutes les infrastructures, hôtels et organisateurs d'expéditions, sont là pour accueillir un tourisme de masse venu se confronter aux géants de lave. Mais en cette époque de début de saison des pluies, les touristes sont peu nombreux et les hôtels bien vides. Nous nous rendons dans l'un d'eux qui nous a été conseillé lors de nos investigations à Dar es Salaam, le Keys Hotel, est réputé pour ses expéditions bien rodées. Si l'ascension du Kilimandjaro n'est pas difficile techniquement, la longueur de la marche d'approche, 4 jours, et l'altitude, 6885 mètres, en font une expédition d'endurance engageante qui requiert une bonne logistique. Nous avons la responsabilité de Sefou et d'Ali, et quoi qu'en pense la TLB, nous ne transigeons pas en matière de sécurité. Malgré le coût, par comparaison, l'équivalent de 3 mois de frais de vie pour 4 personnes en Tanzanie, nous souhaitons faire appel à un professionnel reconnu pour l'organisation de l'ascension. Une formule nous est proposée à un prix exorbitant mais négociable. Diego excelle dans ce domaine. Chaque point du package est revu et négocié. Jusqu'au menu des repas. Au bout de 2 heures, nous nous retrouvons dans le bureau du directeur. Les prix ont baissé de moitié par rapport à ceux annoncés au départ. La négociation aboutit. Nous aurons la chance d'être guidés par Wilson, un guide très expérimenté, âgé de 58 ans, accompagné de 2 guides auxiliaires et de 6 porteurs. En sus, Diego réussit à obtenir gratuitement 3 nuits dans l'hôtel, 3 dîners et 3 petits déjeuners. Nous rejoignons nos quartiers, un logement indépendant au bord d'une piscine. Ali n'en revient pas. On a dormi à même le sol dans des maisons en terre ou sur des bancs, on s'est lavé avec des seaux d'eau froide, on dort aujourd'hui dans le pavillon d'un hôtel luxueux, dégustant des mets soigneusement préparés, apprenant qu'un repas peut être composé de 3 plats, chaque jour à son lot de surprises. Sefou découvre un univers qui ne lui est pas familier. La série de couverts soigneusement rangés à la gauche et à la droite de son assiette, dans l'ordre d'utilisation, ne lui semble pas indispensable. Sa main lui a toujours permis de se sustenter. Il sait toujours où elle se trouve, et il n'a pas à la changer à chaque plat. C'est le buffet du petit déjeuner qui remporte le plus de succès. Devant la profusion et la diversité des aliments présentés, Sefou et Ali ne savent plus quoi choisir. Sans toujours connaître la traduction en anglais, et encore moins en swahili, nous leur décrivons tout ce qui s'offre à eux. Dur de savoir quoi prendre quand on a toujours été habitué à 1 verre de thé et 2 chapatis, crêpes frites, pour son petit déjeuner. Œufs, bacon, pastèque, charcuterie, viennoiserie, le sourire de Sefou n'a jamais été aussi large. Nous restons 2 jours dans cet hôtel tout confort. Le temps pour Sefou et Ali de côtoyer Rumi Shah Massam, le responsable de la branche locale de la TLB. Massam est un Chaga, ethnie de la région du Kilimandjaro. Toujours content et heureux d'accueillir des étrangers chez lui, dans une maison qu'il a construite de ses propres mains, malgré son handicap. Une maison devant laquelle sa femme vend les fruits et les légumes qu'il cultive. Massam est quant à lui instituteur dans l'école de non-voyants de la ville. Il souhaite nous garder pour le repas et nous faire goûter des spécialités locales, comme le ntori, un plat à base de haricots blancs, consommé généralement par les femmes qui allaitent leur bébé, ou le mbenge, mélange de vin de banane et de céréales fermentées, l'alcool artisanal des Chagas. Il nous explique que le Kilimandjaro est surnommé « trône des dieux » à cause des divinités qui se sont installées à son sommet et que le point culminant du volcan s'appelle Uhuru Peak, sommet de la liberté en swahili, en référence à l'indépendance acquise par la Tanzanie en 1961. À cette époque, un Tanzanien était monté au sommet pour faire flotter le drapeau national. Diego et moi, laissons Ali et Sefou en compagnie de Massam et partons à la recherche de matériel pour l'ascension. Vêtements chauds, bâtons de marche, chaussures de trekking. Et d'un endroit, ou retirer suffisamment d'argent pour régler l'ascension. Nous courons de banque en banque, de bureau de change en bureau de change. Nous appelons différents numéros français, faisons modifier les plafonds de sécurité. Jusqu'au dernier moment, nous avons pensé que nous n'arriverions pas à faire transférer la somme suffisante. Le troisième jour est celui du grand départ. Wilson et son équipe nous attendent à Marangu Gate, l'entrée du parc national du Kilimandjaro, situé à une trentaine de kilomètres de Moshi. Par acquis de conscience, nous appelons les autorités du Tanzanian National Park afin de vérifier qu'elles ont bien été averties de notre venue. Nous avions en effet rencontré le directeur du tourisme de Tanzanie à Dar es Salaam et ce dernier nous avait promis la gratuité d'entrée dans le parc national du Kilimandjaro. Un geste apprécié quand on sait que la taxe demandée à tout étranger qui souhaite marcher sur les pentes du volcan s'élève à 455 $. Un prix qui ne souffre pas de comparaison avec le coût de la vie dans ce pays. Les dirigeants du TANAPA, Tanzanian National Park, l'organisme qui gère l'ensemble des parcs naturels, nous disent ne pas avoir entendu parler de notre projet et malgré la lettre de recommandation du ministère du Tourisme, ils ne veulent rien entendre. Pendant près de 3 heures, Diego se bat au téléphone pour essayer d'éclaircir la situation et obtenir l'accord du TANAPA. Mais ni le TANAPA ni le ministère du Tourisme ne donnent de réponse claire. Chacun nous renvoie à l'autre. Si bien qu'après quelques coups de fil, nos correspondants ne sont pas disponibles pour le moment. Il est maintenant midi, trop tard pour commencer l'ascension aujourd'hui. Nous sommes contraints de reporter le départ à demain. Le sommet nous nargue. Il n'en finit pas de changer d'habit au gré des lumières de la journée. Il se pare de 1000 robes, se farde de 1000 couleurs. Hakuna Matata, on va bien finir par te rejoindre au sommet.